France Culture. France Culture, sans préjugés. Nathan Dever.
Dans le traitement médiatique dont l'incarcération de Nicolas Sarkozy a fait l'objet, il y a un aspect qui a peut-être été insuffisamment souligné. Par-delà le caractère exceptionnel de cet événement lui-même, la première fois dans l'histoire de la Ve République qu'un ancien président finit sous les verrous. Par-delà les éditions spéciales qui ont filmé en direct son arrivée à la prison de la Santé. Par-delà la portée symbolique des images en question, leur contraste saisissant, mais aussi leur ressemblance paradoxale avec le cortège d'une cérémonie d'investiture. Par-delà, enfin, le flot de commentaires et de controverses que cette sanction a suscité, tout s'est passé comme si la présence d'un ancien chef d'État dans une cellule de 9 mètres carrés venait se heurter à la perception collective que notre débat public se fait bien souvent du monde carcéral. Comme si cet événement entrait en collision avec les représentations plus ou moins objectives, plus ou moins fantasmées, qui entourent l'univers pénitentiaire. Comme si, contredisant un certain imaginaire de la prison, il invitait à reposer à nouveau frais la question de la fonction de cette institution. Quelle est au juste la finalité de ces structures où la justice se traduit par l'enfermement physique des individus et la suspension de la plupart de leurs libertés ? Servent-elles à maintenir l'ordre ou la sécurité publique en mettant à l'écart de la société des hommes et des femmes qui présenteraient un danger pour autrui ? Visent-elles plutôt à exercer un besoin de punir en forçant les auteurs des délits et des crimes à payer physiquement leurs dettes vis-à-vis de la société ? Sont-elles des espaces de sanctions, de discipline, de répression ou d'amendement moral et citoyen destiné en premier lieu à garantir la réinsertion future des détenus dans la société? Certes, mais qu'arrive-t-il lorsque ces différentes conceptions de la prison entrent en tension, voire en contradiction les unes vis-à-vis des autres? La prison, à quelle fin? J'aurai le plaisir d'en débattre sans préjugés aux côtés de l'historienne Elsa Génard et des avocats Charles Consigny et Mathieu Quinquis.
France Culture, sans préjugés. Nathan Dever.
Bonjour Charles Consigny.
Bonjour.
Vous êtes avocat, auteur, écrivain. Je signale, entre autres, votre récit Le Grand Amour, paru chez Plon en 2024. Alors vous avez eu, c'est pas pour ça qu'on vous reçoit, mais je le précise, des engagements politiques, notamment aux côtés des Républicains. Mais vous êtes surtout avocat et vous avez été, en l'occurrence, impliqué dans le procès qui a conduit à la condamnation de Nicolas Sarkozy. Vous défendiez un autre accusé, Alexandre Djoury. Bonjour Elsa Génard.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférences en histoire contemporaine à Sorbonne Paris Nord et auteur d'un ouvrage qui vient de paraître en septembre aux éditions de l'EHESS, Sous les verrous, une histoire sociale de la prison, France, 1er 20e siècle. Et bonjour Mathieu Quinquis.
Bonjour.
Vous êtes avocat et président de la section française de l'Observatoire international des prisons. Alors, comme point de départ à cette émission, quand on l'a préparée avec Aline Biette, on a été frappé par ce qui s'est évidemment passé cette semaine, l'incarcération de Nicolas Sarkozy à la prison de la Santé. Notre émission n'est pas une émission de débat politique en lui-même, donc c'est pas ce fait-là qu'on veut questionner, mais c'est son traitement médiatique. Et plus précisément, moi, ce qui m'a frappé dans cette couverture médiatique, c'est le fait que pour une fois, à travers l'incarcération de Nicolas Sarkozy, le choc que ça a pu susciter, eh bien, on avait un accès extrêmement humanisant à la question de l'incarcération. On a vu dans les médias des gens nous parler de l'horreur de l'incarcération, des gens nous parler des bruits qu'il y a la nuit et qui sont insupportables, des gens qui nous parlaient de l'humiliation de la fouille à l'arrivée en prison. Charles Consigny, qu'est-ce qui explique que cette incarcération de Nicolas Sarkozy n'ait pas été suivie comme une incarcération entre guillemets banale ?
Ce que vous dites est très juste. L'incarcération de Nicolas Sarkozy a permis de mettre en lumière la réalité de ce que c'est que la prison, le mandat de dépôt, même si le concernant, ça n'a pas été un mandat de dépôt à la barre, ce qui est toujours le plus impressionnant quant au prononcé du jugement ou de l'arrêt de la cour d'assises, s'approchent les policiers de la personne qui est appelée à se rendre séance tenante en prison. C'est toujours un moment très traumatisant. Le concernant, il a eu le bénéfice, comme une espèce de dernier hommage à son statut, le bénéfice du mandat de dépôt à effet différé. Mais le résultat est le même, c'est qu'il se retrouve incarcéré. Et souvent, moi, ce à quoi ça me fait penser, c'est qu'on a du mal, quand on plaide comme avocat, a attiré suffisamment l'attention du juge sur la décision qu'il va prendre. Quand on sent, quand on comprend que le juge a envie d'incarcérer, ce qui est la pente naturelle du magistrat répressif, on a souvent du mal à mettre la prison dans la salle d'audience. Et le travail du pénaliste, c'est aussi de rappeler aux magistrats qui prennent ce type de décision ce que ça va être en pratique pour quelqu'un de se retrouver en détention. Donc en pratique, c'est quoi ? C'est l'hyperviolence, c'est le risque pour la sécurité, le risque physique, c'est le choc carcéral, comme on dit, pour ceux qui n'ont jamais été en détention, c'est l'ennui, c'est beaucoup de choses, mais avant tout, c'est la violence. Et au moins, si l'incarcération de Nicolas Sarkozy a un mérite, c'est qu'elle fait prendre conscience de ça. Elle le fait d'autant plus à des gens qui, par ailleurs, et moi j'observe qu'ils sont quand même un peu en porte-à-faux, les éditorialistes, les responsables politiques qui réclament de la détention pour tout et n'importe quoi. Là, tout à coup, on les entend moins sur ce registre, c'est vrai. Et elle fait prendre conscience de l'absurdité, en fait, de cette chose et du fait que si, bien sûr, sans doute, la prison doit demeurer une sanction qui est utile pour mettre des limites dans la société, pour sanctionner des comportements délictueux ou criminels, on voit bien qu'il y a beaucoup de situations où, en fait, il faut évidemment envisager des alternatives si on est une société évoluée. Et on voit bien, en réalité, dans quel archaïsme se trouve la France. Et je terminerai par là. Moi, j'ai eu beaucoup de dossiers où parfois les magistrats, et je le dis comme je le pense, laissaient par confort certains prévenus en détention, notamment certains mis en examen dans les cas de détention provisoire. Je me souviens de dossiers où des gens sans casier judiciaire, manifestement tout à fait inoffensifs, mais pris dans des grandes affaires de trafic de stupéfiants ou des affaires qui les dépassaient complètement, étaient laissés au trou, parce que c'est ça que c'est, des mois et des mois, parce que, en fait, les juges, ça les gonflait de faire autrement, ou alors ils trouvaient que il s'intéressait pas vraiment au dossier, donc il les laissait en détention. Et ça, c'est vraiment la croix que porte l'avocat sur son dos, c'est de faire entrer la prison dans le cabinet du juge et dans la salle d'audience, et on n'y arrive pas toujours.
Mathieu Quinquis, vous qui êtes aussi avocat, c'est vrai que dans ces discours qui ont pu entourer l'incarcération de Nicolas Sarkozy, il y a eu énormément de témoignages dans les médias d'anciens détenus qui étaient souvent, j'ai remarqué, des anciens VIP, entre guillemets, incarcérés, comme s'il y avait une forme de légitimation à parler de cette position de détenu dans cette position-là. Mais est-ce que au moins ça a eu le mérite, en effet, de montrer dans toute sa concrétude et dans toute sa violence aussi, sa dureté, ce statut et cette vie quotidienne des détenus?
Ben c'est sûr que cette séquence, elle a le mérite d'ouvrir les portes de prison qui, malgré tout, restent bien fermées et que la société ne veut souvent pas regarder en face. Parce que la réalité des conditions de détention en France, elle est connue et elle est archi-documentée depuis des années. Dans l'affaire de Nicolas Sarkozy, de nombreuses personnes ont pu parler d'humiliation. Ce qui est frappant, c'est que c'est le terme « humiliation » qui avait été retenu par le Sénat au début des années 2000 pour dénoncer et qualifier la situation et la condition carcérale en France en disant que c'était une humiliation pour la République. Et on voit bien que 25 ans après, peu de choses ont changé. Aujourd'hui, un certain nombre de personnes réalisent ce qu'ils n'ont pas voulu voir, ce qu'ils n'ont pas voulu entendre, avec ce prisme que vous évoquez et qui effectivement pose, je crois, difficulté, c'est que la parole est donnée à quelques-uns, à ces cols blancs qui ont connu un jour la prison et pour qui on va considérer qu'il s'agit d'une erreur de parcours qui ne vient pas du tout remettre en cause la liberté qu'ils auraient de parler dans l'espace public. Ce qu'on sait par ailleurs, c'est qu'il y a aujourd'hui plus de 84 000 personnes détenues et que chaque année, en France, rentrent en détention plus de 100 000 personnes. Et elles en sortent également. Et pour beaucoup d'entre elles, ça va être un parcours du combattant au sein de la détention, mais aussi en sortant,
parce que la prison va les stigmatiser, va les marquer, un peu à l'image du fer rouge, avec ce blanc qui va être plus ou moins long sur leur CV, et dont ils vont sans cesse devoir s'expliquer et se justifier. Et la prison, effectivement, telle qu'eux la racontent au quotidien, et telle qu'ils la vivent, et bien que Nicolas Sarkozy subissent un traitement ordinaire, il y a des aménagements de confort qui lui sont accordés. Ce que vivent les autres personnes détenues est bien plus violent encore et mériterait notre indignation collective. Et on s'étonne effectivement de cette indignation à géométrie variable et de cette invocation du principe d'égalité devant la loi, mais où en fait certains seraient peut-être plus égaux que les autres et auraient mériterait plus de droits que les autres et plus d'écoute vis-à-vis de ce qu'ils entendent dénoncer.
Alors vous parlez à la fois de traitement ordinaire et d'aménagement de confort, et c'est vrai Elsa Génard que ça pose une autre question. On a vu dans les discours qui ont entouré cette incarcération une sorte d'élément de langage répété dans un sens ou dans l'autre, traité comme un détenu comme les autres, ou Nicolas Sarkozy n'est pas traité comme un détenu comme les autres et ne peut pas être un détenu comme les autres. Est-ce qu'au regard de l'histoire de la prison, cette égalité des citoyens devant la loi se concrétise depuis toujours comme une égalité de traitement dans le milieu carcéral?
Oui, je crois que c'est en effet une des grandes questions que pose la séquence inédite, vous l'avez dit, hein, que l'on vit aujourd'hui, au moins en termes de médiatisation, mais aussi parce que l'événement est inédit, hein, un ancien président de la République sous les verrous. Je crois qu'il y a en fait ici une tension très forte qui parcourt l'histoire de la prison, mais qui aujourd'hui se voit de façon crue, c'est-à-dire une tension entre un principe d'égalité qui est au fondement à la fois de la prison moderne et de notre démocratie. Et la prison moderne, elle a été conçue, on reviendra sans doute là-dessus, hein, mais à un moment de la Révolution française où on pense l'égalité devant la loi. Et en même temps, un fil directeur de la prison qui est aussi la création de régimes dits spéciaux. Et c'est quoi les régimes spéciaux? Ce sont des régimes de détention qui ménagent des adoucissements ou des privilèges ou en tout cas des possibilités plus grandes d'action en prison ou, vous l'avez dit, un confort un peu plus grand. Et ces régimes spéciaux ont souvent été pensés ou voulus par des personnalités politiques. Et donc la figure de Nicolas Sarkozy en prison, ça montre ici cette tension très forte entre l'idée qu'il y aurait une égalité inhérente à la prison, qui doit être un lieu républicain et démocratique, et en même temps le besoin d'aménager des régimes en fonction de certaines personnalités. Et je pense que ce qui est assez intéressant, c'est de le remettre en perspective dans une beaucoup plus longue durée aussi. Et là, je vais me permettre d'aller même en amont de la Révolution française pour revenir à ce qu'ont été les prisons d'Ancien Régime. Les prisons d'Ancien Régime étaient des prisons où le statut social des détenus était primordial et définissait les conditions d'incarcération. Et cela était lié, bien sûr, au fonctionnement social, c'est-à-dire à une société d'ordre et de privilèges. Donc, le statut social était particulièrement important. Et derrière les barreaux se rejouaient ces différenciations sociales. Et il y avait notamment une distinction très forte entre les prisonniers aisés qui avaient accès à des conditions plus favorables en incarcération, notamment des chambres individuelles qu'on appelle la pistole. Et donc on les appelait les pistoliers. Ils pouvaient recevoir dans leur cellule, ils pouvaient continuer d'ailleurs leurs affaires, ils pouvaient faire rentrer de la nourriture en prison, etc. Et le lot des détenus, les plus nombreux d'ailleurs, hein, qui, sans ressources, qui étaient astreints à la paille dans des dortoirs collectifs, et on les appelait les pailleux. Alors, la prison moderne que l'on connaît aujourd'hui, elle est censée avoir rompu avec ces distinctions de statut. Sauf que là, ce qui est intéressant, je pense, avec la figure de Nicolas Sarkozy, c'est qu'on voit qu'il y a un besoin quand même lié à son statut de réintroduire des formes de différenciation sociale derrière les barreaux. Et la deuxième tension, si je puis ajouter quelque chose qui me semble intéressante dans cette séquence médiatique, c'est aussi de voir comment cette incarcération, elle vient heurter, vous l'avez dit, une représentation assez commune de la prison, à savoir un lieu pour les marginaux, ou un lieu d'enfermement des marges de la société. Et là, on a une personnalité qui est bien sûr centrale de notre système politique, qui se retrouve en fait dans un lieu que l'on associe d'habitude aux classes populaires précarisées et marginalisées. Et donc c'est cette tension qui est intéressante et qui peut expliquer aussi des formes de mobilisation et aussi des discours dans les médias très nombreux que l'on n'entend pas en fait d'habitude pour bien sûr l'incarcération des détenus dits ordinaires.
France Culture, sans préjugés, Nathan Devers.
Vous avez rappelé le fait que, Elsa Génard, que la prison, dans la perception commune, collective qui peut en être faite, est souvent vue comme un lieu intrinsèquement marginal. Mmh. Cette analyse rappelle un ouvrage très important de Michel Foucault qui s'appelait « Surveiller et punir, naissance de la prison ». Ouvrage qui s'ouvrait sur une comparaison entre deux événements historiques. Le premier, c'est le supplice de Damiens, un homme qui avait commis un crime en 1757, donc avant la Révolution française, et qui a été torturé publiquement, brûlé, écartelé, humilié, une mort atroce en public. Et moins de 70 ans plus tard, Michel Foucault compare ce supplice au règlement intérieur d'une prison moderne. Les prisonniers doivent se lever à telle ou telle heure, aller travailler à telle heure, étudier, manger, etc. Et Michel Foucault disait, on pourrait, de lecture possible sur cette évolution, on pourrait voir la prison moderne comme un lieu, évidemment, d'amélioration, puisque on a supprimé la torture, on a supprimé cette humiliation, etc., etc. Mais Michel Foucault de déplacer la réflexion pour dire, dans ce progrès, dans cette rationalisation, il y a aussi l'apparition d'un dispositif moderne de discipline. Des punitions, je cite, moins immédiatement physiques, une certaine discrétion dans l'art de faire souffrir, un jeu de douleurs plus subtiles, plus feutrées et dépouillées de leur faste visible. Une punition donc qui est le domaine caché du processus carcéral, mais qui façonne les corps. Mathieu Quinquis, est-ce que vous estimez que cette analyse-là est toujours valable pour parler de la prison moderne et qu'on a affaire à une prison de presque une sorte de laboratoire de la discipline?
Oui, la manière dont la prison moderne a été pensée, dont elle s'est développée et dont elle est aujourd'hui organisée jusque dans des textes, qu'il s'agisse de lois, de décrets ou alors de notes et d'instructions des chefs d'établissement, on voit bien que la prison, c'est une institution qui vient prendre le corps de la personne, l'extraire du corps social, la placer dans un espace reclus dans lequel elle va être sous l'entière dépendance de cette administration pénitentiaire. Et ici, par un jeu de règlement, d'organisation de l'espace, de l'organisation du temps, de l'organisation également des rapports sociaux, on va chercher à faire passer un message. En tout cas, la société va chercher à faire passer ce message. Et il est éminemment disciplinaire, ce message, parce que, et on l'entend par ailleurs dans les salles d'audience en permanence, aller en prison, ça vous donnera l'occasion de réfléchir, ça vous donnera l'occasion de travailler, ça vous donnera l'occasion de vous former. C'est de ce que Michel Foucault disait, des corps utiles et dociles. Et donc des gens qui vont effectivement rentrer dans le cadre. Et pour les faire rentrer dans le cadre, la prison, l'administration pénitentiaire, la justice, va parfois être extrêmement violente et contraignante, coercitive à l'égard de ces personnes, en parfois méconnaissant les facteurs qui peuvent contribuer à ce que la personne ait commis un certain nombre d'actes, que ces facteurs soient sociaux, économiques, familiaux, parfois également sanitaires. Et là-dessus, on a une vraie difficulté aujourd'hui avec une prison qui n'est pensée que sous son prisme disciplinaire et qui, sous couvert de quelques dispositions législatives qui font la promotion de la réinsertion, en fait, laisse peu d'espace à l'émancipation des personnes et à la création d'opportunités pour l'avenir. La prison est une institution qui, effectivement, écrase beaucoup, et rares sont les hommes, les femmes, et y compris les enfants, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en France, on incarcère dès l'âge de 13 ans, rares sont les personnes qui sortent de prison sans avoir été marquées dans leur corps et dans leur esprit.
Michel Foucault qui théorise aussi le fait que la prison moderne devient un espace de surveillance de l'individu.
Il est évident que le problème de la justice, de la loi, de la pénalité, de la police, de la prison, etc., sont pour moi des problèmes très très importants. Et avec un groupe de personnes tout à fait différentes, d'ailleurs, les unes des autres, nous avons formé un groupe qui s'appelle groupe d'information sur les prisons et qui est au fond une sorte de groupe, non pas d'analyse théorique, mais un groupe d'attaque contre le système répressif tel qu'il fonctionne en France, vraisemblablement d'ailleurs dans les autres pays, mais notre attaque, nous la faisons porter évidemment sur ce qui nous entoure et nous entoure immédiatement, c'est-à-dire le système justice-police tel qu'il maintient, reconduit, prolonge l'ensemble des impératifs et l'ensemble des limitations morales, sociales et juridiques de notre société.
Elsa Génard, est-ce que d'abord vous partagez la généalogie proposée par Michel Foucault de la prison moderne, et est-ce que vous pensez qu'elle est valable pour penser les prisons contemporaines, celles du XXIe siècle ?
Alors bien sûr, l'œuvre de Michel Foucault, elle est fondatrice hein, d'un champ de recherche, l'histoire de la prison. Sa thèse reste éclatante, si je puis dire, elle reste fascinante, et moi-même enfin, je suis entrée dans l'histoire de la prison aussi par ce point d'entrée. Elle a aussi été discutée beaucoup par les historiens, d'ailleurs dans des termes parfois un peu houleux, avec Michel Foucault lui-même de son vivant. Et l'héritage de Foucault dans l'histoire de la prison, il est à la fois très important, et en même temps il y a eu des pas de côté qui ont été faits, notamment pour penser avec plus de nuances la chronologie, parce que Foucault pensait une rupture un peu abrupte des systèmes répressifs, et aussi pour réintroduire un peu l'ensemble des acteurs sociaux, c'est-à-dire qui fait la prison, et penser le pouvoir pas simplement comme un pouvoir omnipotent, omniscient, surplombant, mais aussi incarné. Et ça rejoint une conception du pouvoir très foucaldienne, à savoir que c'est dans les relations de pouvoir au quotidien que l'on peut observer cette fameuse discipline ou cette surveillance. Donc oui, la lecture de Foucault, elle est très importante. En même temps, aujourd'hui, pour analyser les prisons, je pense que le seul prisme disciplinaire n'est pas suffisant, notamment parce que la notion de discipline, à savoir transformer l'âme et le corps à travers, en fait, un regard sur le corps des prisonniers et une surveillance constante exercée en prison, cette lecture-là, elle ne représente plus exactement le paradigme actuel de nos politiques pénales, qui sont davantage orientées vers un système sécuritaire où la gestion en fait de l'ordre public et où la question de la sécurité publique en fait ont pris le pas sur la question de, alors, ce qu'on appelait au 19e siècle l'amendement moral des prisonniers, ce qu'on a continué à appeler la réinsertion aujourd'hui. On voit qu'il y a là, pour le coup, les objectifs d'ordre public et d'ailleurs l'instrumentalisation aussi de la prison par les politiques hein, est beaucoup plus forte aujourd'hui que les dispositifs de réinsertion. En tout cas, ils ont trop peu de moyens pour être efficaces. Donc en fait, il faut articuler à la fois une lecture disciplinaire, des justifications disciplinaires de la prison et une analyse concrète des dispositifs qui donnent la part belle en fait à des dispositifs de sécurité et de gestion, là pour le coup, au quotidien des détenus pour en fait, pour ne pas que les prisons explosent. En fait, c'est quand même ça aujourd'hui qui est assez frappant.
Puisque vous parliez de répression, parmi les détenus célèbres dans l'histoire de la littérature, il en est un qui était Oscar Wilde. Alors, c'était pas en France, c'était une condamnation pour homosexualité au terme d'une vie de dandy flamboyant. Oscar Wilde découvre l'enfer de la prison. Il écrit un poème magnifique qu'il faudrait lire en anglais, Ballad of Reading Jail, la ballade de la geôle de Reading. Je vous en lis un passage en français, donc ça a moins de valeur. Je ne sais si les lois sont justes ou si les lois sont iniques. Tout ce que nous savons, nous autres qui gisons en prison, c'est que solide est le mur, que chaque jour est une année dont longs sont les jours. Toute prison bâtie par les hommes est bâtie de briques de honte et sainte de barreaux pour empêcher le Christ de voir comment les hommes peuvent mutiler leurs frères. Charles Consigny, dans ce débat sur l'histoire et sur sur la nécessité de la prison, j'ai l'impression que la question de la définition de la prison va de pair avec une autre question qui est qui a sa place en prison ? Et qui a en gros à peu près trois réponses. Je caricature, mais je fais exprès de schématiser. Une réponse consistant à dire la prison sert à protéger la société de gens qui sont dangereux, physiquement dangereux. La prison sert à faire payer les individus, faire en sorte qu'ils payent leurs dettes et donc dissuader pour les délits. Ou la prison a une valeur presque morale permettant de garantir la réinsertion. Dans votre définition en tant qu'avocat, comment vous justifiez l'existence de la prison et donc sa nécessité ?
Pour moi, la prison met des limites, comme je l'ai dit en début d'émission, elle met des limites dans la société. En pratique, j'ai défendu beaucoup de gens qui ont été en prison, je suis allé dans beaucoup de prisons, donc ce que je peux dire de mon expérience, qui est détenu en France ? Au premier chef, ce sont toutes les personnes liées au trafic de stupéfiants. C'est concrètement des trafiquants de drogue ou leurs petites mains qui sont assez systématiquement envoyés en détention. On dit même, entre avocats, qu'il y a presque un tarif au poids s'agissant du trafic de stupéfiants, c'est-à-dire si vous avez trafiqué un kilo, c'est tant d'années, deux kilos, tant d'années, etc. Heureusement, c'est un tout petit peu différent, mais pas tellement. Et c'est le trafic de stupéfiants est ce qui vous envoie de manière quasi certaine en détention. Ce qui, moi, me pose question dans la mesure où les consommateurs, eux, bénéficient quasiment d'une impunité. Donc on est sur un système assez stupide où celui qui achète de la drogue quasiment a les honneurs de la presse et celui qui lui vend va systématiquement en détention. Là, pour moi, il y a un problème politique où il faut qu'on tranche dans un sens ou dans un autre, mais on est sur un entre-deux qui me paraît pas sain. Ensuite, on met en détention les gens qui, effectivement, sont dangereux immédiatement pour leur prochain, c'est-à-dire les auteurs de violences physiques, les auteurs d'agressions sexuelles violentes, en général. Ce type de personnes-là, c'est ce qui vous conduit aussi en prison. Ou même, malheureusement, et c'est intéressant qu'on ait l'occasion de le dire, enfin malheureusement, ça dépend de quel point de vue on se place, mais moi j'ai déjà vu des individus, pour avoir volé deux flacons de parfum aux Galeries Lafayette, prendre un mandat de dépôt à la barre et être incarcéré dans la foulée. Et ça rejoint ce que vous disiez sur l'ordre public et sur le fait que maintenant la considération centrale du législateur et du pouvoir politique, c'est de garantir l'ordre public. Oui, on peut aller en prison pour des tout petits délits parce qu'on considère qu'en fait ils viennent perturber tellement la société qu'il faut les sanctionner durement. Bon, c'est une question de choix politique. Hein. Je dis pas que c'est forcément abominable comme choix politique. Je pense qu'il y a des excès. Et enfin, dans tout ça, on a beaucoup aussi de détenus qui sont en détention provisoire. Et ça, moi, ça m'a toujours posé beaucoup de questions parce que, par définition, quelqu'un qui est en détention provisoire n'est pas encore condamné par la justice. Ou alors, il n'est pas condamné définitivement. Il a fait appel de sa condamnation. C'est le cas, donc, par exemple, de Nicolas Sarkozy ou, à ce jour, de mon client Alexandre Djoury. J'espère que ça prendra fin rapidement. Quand vous faites appel, vous basculez sous le régime de la détention provisoire. Et ça, les juges, moi, je trouve, ont tendance à en user et en abuser. Et il n'y a rien de plus glaçant que de se rendre compte que le juge va vers cette mesure et que c'est quasi impossible de lui faire entendre qu'une autre solution est envisageable. Et le pire étant quand des juges se contredisent, c'est-à-dire vous en avez un qui ne souhaite pas forcément la détention, le juge d'instruction, mais vous avez le procureur qui va saisir quand même le juge qui est chargé de trancher le sujet qui s'appelle le juge des libertés de la détention, et ce troisième juge va suivre le procureur, mais donc contre l'avis du juge d'instruction. Or, on nous explique sur tous les tons, et c'est écrit partout dans le code de procédure pénale, que la détention doit être la mesure ultime, celle qu'on prend si vraiment on n'a pas d'autre solution. Et donc, dans ces conditions-là, je suis toujours très étonné qu'un juge puisse dire, quand bien même un autre aurait dit « bah non, en fait, il y a une alternative », dit « non, 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 en fait, il n'y a pas d'alternative ». S'il y a eu un juge pour penser qu'il y a une alternative, pour moi, c'est qu'il y a une alternative. Donc voilà, on est sur un système sévère, mais sur des profils comme je viens de vous le décrire. Après, il y en a un petit peu d'autres, évidemment, mais enfin, quand même, le gros des troupes, c'est les profils que je viens de vous décrire, effectivement, dans le but quasi unique de garantir l'ordre public. Et je terminerai par là, parce que je vois que vous voulez enchaîner sur autre chose. Je constate, moi, en tout cas, que la réinsertion n'est plus du tout un sujet prioritaire. Faut voir que la justice, ce qu'elle fait, je l'accable pas, d'ailleurs. Elle écluse un peu, quand même, la mer avec une cuillère. C'est-à-dire, elle a un flot, malgré tout, faut dire les choses, de délinquance et de criminalité qu'elle doit absorber. Et elle fait ce qu'elle peut face à un phénomène de très grande ampleur, en réalité. Et donc, dans ces conditions, effectivement, réinsérer quelqu'un qui en est à sa quatrième condamnation pour trafic de stupes, qui n'est pas diplômé et qui n'a pas tellement d'autres horizons dans la vie, c'est vraiment très difficile. Et moi, j'ai plutôt le sentiment que, de la même façon qu'on a un peu abandonné le chantier consistant à essayer d'empêcher une certaine jeunesse qui grandit dans certains quartiers, etc., de rentrer dans la violence et la criminalité, on a aussi un peu laissé tomber le chantier consistant à les sortir du circuit. En ce moment, je trouve qu'il y a plutôt une politique abandonniste en réalité sur ce sujet.
France Culture, sans préjugés. Nathan Devers.
Vous avez lu dans mon esprit Charles Consigny, parce que c'était l'objet de la question que je voulais aborder à présent, cette question de la réinsertion, ou en tout cas du critère, entre guillemets, je vais employer un mot avec beaucoup de guillemets parce qu'il n'est pas forcément approprié, mais de réussite, entre guillemets, de cette institution. L'idée que l'individu, au sortir de la prison, sera différent et n'aura pas de raison d'y retourner. Il y a un philosophe qui s'appelait Bernard Stiegler, qui est décédé, qui a été lui aussi incarcéré dans sa jeunesse. Il avait commis des actes délictueux, il n'était pas encore philosophe, et il est devenu philosophe en prison. Et je recommande à tout le monde de lire son ouvrage « Passer à l'acte » aux éditions Galilée. C'était une conférence qu'il a faite en 2003, où il raconte sa conversion à la philosophie dans la prison de Saint-Michel. « Mon incarcération, résultat d'un passage à l'acte, écrivait-il, aura été la suspension de mes actes et l'interruption de mes actions. Telle est la fonction de la prison, mais c'est aussi le début, note-t-il, de la philosophie. » Et il parle de cette vertu de la prison. Pourquoi je pose cette question ? Parce qu'aujourd'hui, évidemment, quand on parle des prisons en France, il y a une dimension qui me semble importante, c'est celle des taux de récidive. Alors, les chiffres, on pourra en discuter dans le détail, mais en gros, une étude de 2020 montrait qu'il y avait plus de 30% de détenus qui, quand ils sortaient de prison, récidivaient dans un laps de temps assez court. Est-ce que Mathieu Quinquis, cette réalité importante de la récidive, fait dire que la prison est contre-productive, qu'elle est l'école de la récidive, et qu'il faudrait poser la question peut-être de solutions autres et inscrire cette réflexion pénale dans des alternatives ?
Je ne sais pas si la prison est l'école de la récidive, mais il est certain que son objectif, c'est de favoriser la réinsertion, on est obligé de constater que ça ne fonctionne pas. Vous évoquiez cette étude de 2020, il y en a une plus récente qui indique que 65% des personnes sortantes de prison récidivent dans les 5 ans. Dans n'importe quel autre administration ou entreprise avec un tel taux d'échec, on viendrait remettre en cause fondamentalement l'idée qui est proposée par la prison. Imaginez que dans un service d'urgence où on vient poser des plâtres pour des personnes qui ont des fractures, dans les 3 semaines qui suivent, 65% d'entre eux ont de nouveaux problèmes. Évidemment qu'il y aurait immédiatement des enquêtes administratives et des chamboulements profonds sur l'organisation du service. Et bien sur la prison, en réalité, on est dans quelque chose d'assez illogique, c'est qu'on constate depuis des années, hein, et des années et des années, et encore une fois, Michel Foucault disait que l'échec de la prison lui était un peu consubstantiel, et que donc sa réforme était consubstantielle également. On est dans une logique où, constatant l'échec de la prison, on en demande toujours plus. Et en niant, finalement, des évidences sociologiques, économiques, et en isolant parfaitement l'individu et l'acte qu'il a commis. On imagine, on reste persuadé, c'est encore un discours largement dominant dans le débat public, que les hommes et les femmes qui commettent des infractions le feraient parce qu'ils l'ont décidé, simplement, et que l'environnement dans lequel ils ont évolué, dans lequel ils ont grandi, dans lequel ils vivent, les relations sociales qu'elles ont ou qu'elles n'ont pas, les interactions qu'elles ont ou qu'elles n'ont pas avec le corps social et avec l'État, ne joueraient aucun rôle dans ce passage à l'acte. Et malheureusement, quand on regarde le profil des personnes détenues, il y a une surreprésentation des personnes illettrées, il y a une surreprésentation des personnes présentant des troubles ou des maladies psychiatriques, il y a une surreprésentation des personnes étrangères dépourvues de titre de séjour, donc placées dans des situations de précarité et de vulnérabilité administrative, il y a une surreprésentation de personnes qui présentent des traits d'addictologie, et évidemment que le passage à l'acte qui leur est reproché et qui les a conduits en prison est intimement lié avec l'environnement dans lequel ils évoluent et avec la personnalité qu'ils ont. Et ce n'est évidemment pas en plaçant une personne dans une cellule de 9 mètres carrés et en la contraignant à cohabiter avec une, deux, trois autres personnes pendant X temps, avec toujours cette espèce de surprise en audience quand on nous dit que ça vaut 6 mois et pas 8, ou alors quand on parle en année avec une espèce de loterie judiciaire qui trouve pas réellement de logique. Il y a quelque chose qui ne va pas dans la manière dont on conçoit et dont on pense la réponse pénale à travers la prison. Et évidemment que ça échoue lamentablement, en créant souvent, par ailleurs, de nouveaux mots, parce que la prison abîme, la prison dégrade, elle vient frapper la personne détenue, mais elle vient également frapper son entourage familial, elle vient générer des ruptures dans les liens familiaux, qui sont parfois les quelques éléments qui pourraient permettre de sortir de la situation dans laquelle elle était placée. La prison va marginaliser, va encore une fois stigmatiser et va en réalité rien venir réparer. Et la réinsertion est ici un formidable idéal, mais qui est très très loin d'être atteint aujourd'hui.
Je me demande en vous écoutant si peut-être le problème ne vient pas du caractère parfois univoque qu'on associe au concept de prison, s'il n'y a pas des modèles pluriels de prison. J'en cite un seul, Elsa Génard, la prison dite ouverte de Casabianda, encore c'est une prison, mais c'est une prison qui ne répond pas aux caractéristiques qu'on associe usuellement à la prison, puisque les détenus qui sont souvent condamnés pour des infractions, des délits ou des crimes graves, notamment sexuels, sont dans cette prison sans mur. Ils ont les clés de leur cellule, ils peuvent rentrer et sortir comme ils l'entendent. Et puis, ils travaillent, je crois, notamment dans des champs. Est-ce qu'il faudrait réfléchir à différencier les modèles de prison ? Et est-ce que aussi cette réflexion s'ancre aussi dans l'histoire de la prison ?
Alors oui, c'est intéressant le cas de Casabianda parce qu'en fait, pour le coup, c'est un des modèles de prison très 19e siècle, si je puis dire, qui a d'ailleurs été pensé davantage pour les jeunes délinquants, à savoir cette prison au champ, cette prison ouverte qui prendrait la forme en fait de colonies agricoles. Et Casabianda, c'est en fait une exception dans notre parc pénitentiaire aujourd'hui, et vous l'avez dit, hein, qui est réservé à une certaine catégorie de détenus, donc des détenus condamnés pour des violences sexuelles et qui sont en fait en fin de peine, généralement, donc déjà très avancés dans l'exécution de leur peine. C'est un modèle qui, actuellement, n'est pas du tout celui que les politiques pénales veulent généraliser en France. Donc en fait, on peut penser cette exception, mais ça renvoie surtout au fait qu'il n'y a aucune volonté politique de généraliser cette alternative-là, c'est-à-dire une forme ouverte de prison. Par contre, ce qui est vrai, c'est que l'arsenal législatif s'est enrichi d'autres peines depuis la fin du 19e siècle. Je pense bien sûr à la libération conditionnelle, qui est peut-être une des plus anciennes mesures. Alors, ce n'est pas une alternative à la prison, c'est plutôt une sortie anticipée hein, de la prison qui date de 1885. Mais ce que je trouve intéressant si on prend le cas de la libération conditionnelle et de sa genèse, par exemple, donc c'est le fait, je rappelle hein, peut-être la définition, c'est le fait de demander à sortir de prison avant le terme de sa peine. C'est au départ pensé comme une mesure administrative en 1885. Désormais, c'est dans les mains d'un juge d'application des peines. Mais en tout cas, l'idée étant de récompenser un bon comportement en prison. Et c'est pensé pour une catégorie de détenus à la fin du 19e siècle qu'on dit récupérables, amendables, ceux qui pourraient en fait s'améliorer moralement. Et ce que je trouve intéressant dans cette genèse, c'est qu'au même moment, en 1885, les républicains de la Troisième République votent une autre mesure qui est en fait la relégation au bagne pour les multirécidivistes et pour ceux que l'on considère irrécupérables. Donc en fait, les mesures les plus favorables sont aussi votées avec un pendant, leur pendant le plus répressif possible, à savoir ici la relégation à perpétuité au bagne de Guyane. Et cela, hein, je rappelle quand même que le bagne a fonctionné jusqu'au début des années 1950. Donc en fait, on est quand même dans une tension toujours entre un horizon, de sortie et penser des dispositifs de sortie ou qui facilitent la transition entre l'incarcération et la liberté. Et de ce point de vue-là, il y a eu un enrichissement de la panoplie. On pense à la semi-liberté, on pense au sursis avec mise à l'épreuve, on pense au bracelet électronique aussi. Donc voilà des mesures en fait qui diversifient un petit peu le mode d'exécution des peines. Et dans le même temps, des dispositifs qui sont en fait des durcissements répressifs. Hein, et les peines planchers en sont un exemple. Les quartiers d'isolement, les quartiers les plus sécurisés. Dans les années 70, on parlait des quartiers de haute sécurité. Donc en fait, cette histoire, elle fonctionne un peu comme ça. Elle oscille. Et c'est pas. Les deux fonctionnent ensemble. Et peut-être que c'est un des traits de la prison républicaine, d'être biface comme ça, et d'avoir les aspects les plus répressifs, tout en voulant penser des dispositifs de réinsertion.
Dans cet aspect biface, et ce sera le mot de la fin, Charles Consigny, mais quand on réfléchit aux alternatives à la prison, on voit aussi qu'aujourd'hui, dans le débat public, il y a beaucoup de polémiques sur le fait qu'il puisse y avoir des loisirs en prison, sur le fait que les prisonniers puissent avoir, entre guillemets, ce qui peut être jugé dans le débat public par certains, comme des privilèges ou des choses qui n'y auraient pas sa place. Comment on peut faire évoluer les choses avec un tel décalage par rapport à l'opinion publique ?
En fait, je pense que l'opinion publique, elle ne connaît pas la prison, la détention, et qu'est-ce qu'elle imagine ? Elle imagine des jeunes trafiquants de drogue qui gagnent déjà beaucoup d'argent avec le trafic, donc il y a une espèce de jalousie de l'argent mal acquis, et on imagine qu'après, une fois en détention, en fait, ça continue sur un registre, comme on dit souvent, un peu Club Med, c'est-à-dire qu'ils sont là et ils ont, somme toute, leur téléphone, leur sachet d'herbe, et ils continuent à gérer leur commerce depuis la détention, donc tout va bien. En pratique, c'est pas ça. En pratique, la détention, c'est l'hyperviolence. Et moi, je souhaite à personne d'être un jour incarcéré, parce que c'est extrêmement dur. Je terminerai par là. Je pense qu'il y a zéro loisir en prison. Le peu qu'on a, c'est déjà bien. Je pense qu'il faut qu'il y en ait. Et je pense surtout que les gens qui y sont complètement paumés. Et donc, plus on fait rentrer des gens qui les aident, qui les guident pour leur sortie, mieux c'est.
Merci beaucoup à vous trois pour cette émission et ces échanges. Merci beaucoup à Aline Biette qui a préparé l'émission, à Souad Boukorsa qui l'a réalisée et qui l'a mise en onde. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site et l'application de Radio France. À très bientôt.